Vous écoutez On lit pour vous.
La fameuse cible des 25-54 ans. Un texte de Mario Girard paru le 1er juin 2026 dans La Presse. Dans la vie de tous les jours, nous sommes des téléspectateurs et des auditeurs. Mais nous sommes aussi une cible. Pour les diffuseurs, les spécialistes du marketing et les annonceurs, nous symbolisons des consommateurs faisant partie d'un groupe d'âge. Depuis des décennies, celui des 25-54 ans est le bullseye du jeu de fléchettes. C'est ce groupe que l'on veut séduire. Jeune, actif, malléable, doté d'un grand pouvoir d'achat, c'est pour lui que l'on crée les concepts d'émission. De 60 % à 80 % des campagnes publicitaires mises sur ce noyau. Mais dans l'immense bouleversement que connaît actuellement le monde de l'audiovisuel, cette manière de voir les choses est-elle encore justifiée? A-t-on raison de calculer les cotes d'écoute en fonction de ce groupe? Prise en sandwich entre les jeunes adultes et les retraités, cette tranche est-elle encore facilement atteignable? Longtemps considéré comme une masse homogène, le concept des 25-54 ans est devenu un véritable casse-tête pour les experts en placement média et les diffuseurs. La raison de tout cela? Les nombreuses façons d'accéder au contenu qui s'offre à nous. Ce n'est plus autant l'heure du rendez-vous qui compte que le contenu qui est fait et son canal de diffusion. De nos jours, le spectre des comportements de 25 à 54 ans est devenu très large. Un jeune de 26 ans n'a absolument pas les mêmes habitudes qu'un adulte de 53 ans face aux moyens de consommer l'audiovisuel. Selon de récentes données de Numéris, le groupe des 25-54 ans représentait 48 % de l'écoute télé en 2009-2010. En 2022-2023, il est tombé à 28 % de l'écoute totale. Quant à la radio, des tableaux du Centre d'études sur les médias montrent clairement que c'est à partir de 50 ans que se forme la plus importante cohorte d'auditeurs et que celle-ci prend de l'ampleur à 60 ans. Télévision linéaire, radio traditionnelle, balado, télé à la demande, plateforme numérique, diffusion en continu, vidéo courte, etc. Cette multiplication des canaux crée une forte segmentation des publics. Comment, dans ce contexte, les médias doivent-ils maintenir leur auditoire et bien le servir? Il y a un gros travail à faire de leur part, dit Ahmed Megdish, directeur de l'achat média chez Espace M. Ils n'ont pas le choix de créer des contenus en fonction de divers formats. Il faut savoir revoir sa programmation et la façon dont elle est amenée. Moi, quand j'ai soif, je veux qu'on m'apporte de l'eau, pas du pain. Les chiffres le prouvent. Les adolescents désertent la télévision québécoise. Les heures d'écoute des 12-17 ans ne cessent de chuter. Les moyens technologiques dont ils disposent les amènent à consommer un contenu qui est produit ailleurs. Il sera très difficile de ramener ce groupe au bercail dans quelques années. Puis-je vous rappeler les consternantes données de l'Institut de la statistique du Québec publiées en janvier dernier? On y apprenait que la majorité des jeunes Québécois de 15 à 29 ans regardent surtout des contenus télévisuels provenant de l'extérieur du Québec. Seuls 8 % d'entre eux visionnent surtout du contenu fait chez nous. Cette tendance s'observe aussi dans le domaine de la musique. On assiste en ce moment à une conjugaison désuète des contenus avec les divers groupes de téléspectateurs et d'auditeurs. Prenons la télévision linéaire. On continue de créer du contenu pour plaire aux 25-54 ans, avec comme résultat que ce sont les 55 ans et plus qui sont majoritairement à l'écoute. L'objectif n'est pas d'arrêter de faire de la télé ou de la radio. Il faut revoir le mix média et l'équilibre. selon Benoît Skinazi, chef de la stratégie commerciale chez ShareThrough. Faut-il avoir peur des 55 ans et plus? En attendant que les médias commerciaux et publics se dotent d'écosystèmes capables de rallier divers groupes, que fait-on avec le public plus âgé? Est-il aussi vieux qu'on le pense dans ses habitudes de vie? Après tout, on aime dire que « 60 is the new 50 ». Est-ce que ce groupe est formé de consommateurs moins intéressants pour les annonceurs? À 57 ans, on continue de changer de voiture, de voyager, d'acheter des vêtements, d'aller au spectacle, de consommer de la nourriture et de l'alcool. Pourquoi ce groupe semble-t-il avoir moins d'attrait pour les diffuseurs et les annonceurs? C'est vrai que son pouvoir d'achat est élevé, reconnaît Simon Bédard, vice-président stratégie chez Publicis. Mais je pense qu'il y a un désir de la part des annonceurs de toujours se renouveler, d'agrandir leur bassin de consommateurs. Ça vient avec l'idée d'une certaine coolitude. Cela dit, je crois que les marques devraient s'intéresser davantage aux générations plus âgées. On doit cibler tout le monde. Des meubles, tout le monde achète ça. Anne-Sophie Collins, directrice du service média chez Dialecta, partage ce point de vue. Il y a un gros angle mort à se limiter aux 25-54. Les 55 plus sont une cible super intéressante pour des annonceurs parce qu'ils ont des moyens. Les obligations familiales sont moins présentes. Les enfants sont parfois partis. La maison est payée et a pris de la valeur. Ils consomment beaucoup de médias et leur présence est souvent sous-estimée par les annonceurs. Soyons francs, ce groupe cause des maux de tête aux annonceurs pour une raison en particulier. Leur expérience de vie fait en sorte qu'ils sont moins influençables. Ils ont leurs habitudes et leurs préférences. Ça coûte beaucoup plus cher en marketing de faire changer d'idée un sexagénaire fidèle à une marque depuis 30 ans que de séduire un trentenaire qui cherche encore ses repères, nous dit Ahmed Mekdish, directeur de l'achat média chez Espace M. Tout le monde est numéro un. Vous l'aurez remarqué, au lendemain de la publication des sondages d'écoute, tout le monde, à sa façon, est numéro un. Numéro un chez les femmes de 25-54 ans. Numéro un chez les hommes de 18-34 ans. Des radios et des télés sont maintenant tentés d'offrir les résultats des sondages en fonction des 2+, 12+ ou 18+. L'idée serait juste et bonne si elle était répandue et uniforme. En vendant du 18+, ils additionnent les gros chiffres des 65+ pour masquer la disparition des 18-34, explique clairement Ahmed Mekdish. Vous voyez à quel point la situation est complexe? Les médias doivent créer des contenus qui visent plusieurs publics et concevoir des canaux de diffusion pour les rejoindre. Les annonceurs veulent la part du lion en tentant de rejoindre la masse dominante. Et nous? Nous, on butine d'un média à un autre pour satisfaire toutes nos envies. Comme dirait l'autre, attrapez-nous si vous le pouvez. C'était la fameuse cible des 25-54 ans. Un texte de Mario Girard, paru le 1er juin 2026 dans la presse.
Les librairies francophones hors Québec en déclin. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 1er juin 2026 dans Le Devoir. Les librairies franco-canadiennes indépendantes à l'extérieur du Québec sont rares. Manquant de garde-fous pour les protéger, des dizaines de librairies ont fermé leurs portes dans les dernières années. Selon un décompte du Devoir, il en resterait 11 au pays en 2026. Elles étaient 12 en Ontario seulement en 2009. Depuis la fermeture de la dernière librairie francophone de Toronto et l'ouverture d'une petite boutique à Hearst en 2025, elles sont désormais 4 à desservir la province au complet. Linda Grimard-Watt a été contrainte récemment de fermer sa boutique, le Children's French Book Corner à Toronto. Il y a eu des moments difficiles dans la dernière année. Après avoir longuement réfléchi, j'en suis venue à la décision que je ne pouvais plus garder la librairie ouverte. Depuis, elle aide les écoles locales à sélectionner leurs livres francophones en tant que distributrice. Comme ça, je continue à contribuer, estime-t-elle. Sans grande surprise, c'est le Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue, qui détient le plus grand nombre de librairies francophones après le Québec. Malgré la fermeture de la librairie La Grande Ourse à Dieppe en 2023, 5 librairies sont toujours en activité. Le reste du pays doit se contenter de 2 librairies francophones, l'une au Manitoba et l'autre en Saskatchewan. Alexandre Chartier est directeur général de la Société historique de la Saskatchewan, propriétaire de la librairie Nation Fransaskoise. Il s'agit de la boutique de livres francophones la plus à l'ouest du pays. Au-delà de vendre des livres, explique-t-il, on est un acteur actif de la communauté francophone. Depuis 2023, la petite boutique de Saskatoon sélectionne rigoureusement des ouvrages francophones et franco-canadiens qu'elle vend à la communauté, mais aussi et surtout aux écoles de la région. Notre objectif, c'est de maintenir le lien de la lecture de l'enfance à l'âge adulte, explique-t-il, même si les adultes lisent moins. Et c'est ce qui explique que la librairie soit composée à presque 50 % d'ouvrages pour enfants. D'ailleurs, la librairie aide des écoles à choisir du matériel et installe même des kiosques temporaires dans ces établissements. Parfois, c'est la première fois qu'un enfant fait une transaction entièrement en français, explique-t-il. Pour lui, une librairie francophone en milieu minoritaire a plusieurs fonctions, autres que vendre des livres. Depuis quelques années, la librairie emploie 3 ou 4 jeunes Saskatchewanais à la fois. Ils travaillent en français et pratiquent leur français quotidiennement. Ils ont plus de chances de vouloir continuer à travailler en français, note-t-il. La librairie fait la livraison partout au pays. Elle cherche présentement une manière de s'installer en Alberta, maintenant que la seule librairie francophone indépendante de la province a fermé ses portes. Pas de garde-fous. Hors Québec, aucune province ne dispose actuellement d'un régime aussi structurant que la loi 51 qui oblige les institutions québécoises à acheter leurs livres auprès de librairies agréées. L'Ontario a tenté de mettre en place un système relativement similaire en 2025. Mais le projet de loi porté par la députée provinciale Lucille Collard a été battu en deuxième lecture au Parlement. Au Nouveau-Brunswick, les institutions sont encouragées par la politique du livre à acquérir leurs livres auprès des librairies indépendantes de la province, mais il ne s'agit pas d'une obligation légale. C'était les librairies francophones hors Québec en déclin. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 1er juin 2026 dans Le Devoir.
Pourquoi l'observation des oiseaux séduit autant la génération Z? Un texte de Clara Beaulieu, paru le 15 mai 2026 dans le magazine Urbania. Maintenant que les températures plus douces semblent enfin installées, on en profite pour dormir les fenêtres ouvertes et se faire réveiller par le concert d'oiseaux annonçant le matin. Si ce petit marqueur du printemps fait plaisir à plusieurs, il y en a que ça enthousiasme encore plus, les amateurs et amatrices d'ornithologie. Longtemps perçue comme une activité réservée aux personnes plus âgées, l'observation des oiseaux connaît pourtant une hausse de popularité chez les jeunes depuis quelques années. Plusieurs médias ont d'ailleurs couvert le phénomène, certains allant même jusqu'à qualifier l'ornithologie de « Hot Girl Hobby of the Year ». En Grande-Bretagne notamment, près de 750 000 membres de la génération Z pratiqueraient l'observation d'oiseaux, soit une hausse de 1088%, entre 2018 et 2026. Et le Québec ne fait pas exception. Par exemple, la page Instagram eBirds Meme, générée par un créateur de la rive sud de Montréal, cumule près de 29 000 abonnés et semble surtout attirer un jeune public. Mais qu'est-ce qui explique cet engouement soudain de la génération Z pour les jumelles, les carnets de notes et les chants d'oiseaux? Pour mieux comprendre, j'ai discuté avec Éloi, un ancien collègue qui pratique l'ornithologie depuis plusieurs années. Une dopamine plus saine. Éloi a commencé à observer les oiseaux, très jeune, avec ses parents. Mais il m'explique que prendre ce passe-temps plus au sérieux depuis environ 2 ou 3 ans. C'est lors d'un séjour à l'île aux Grues qu'il a eu un déclic. En marchant en forêt, il est tombé sur plusieurs espèces dont il ignorait l'existence. En revenant chez moi, j'ai fait des recherches sur les espèces que j'avais vues et je n'en revenais pas. Elles se retrouvaient littéralement toutes près de moi, me racontait-il. Au Québec, on retrouve près de 470 différentes espèces d'oiseaux. Et pour les passionnés, ajouter une nouvelle espèce à sa liste d'observations procure un véritable sentiment d'accomplissement. Je rentre chez moi super content. J'en parle à ma blonde, à mes collègues, déclare Éloi. Peut-être que ce qui attire autant les jeunes vers l'ornithologie, c'est justement cette petite montée de dopamine ressentie lorsqu'on aperçoit enfin une espèce qu'on cherchait depuis longtemps. Et ça tombe pile dans une tendance plus large chez la génération Z, la recherche de plaisir plus en phase avec la nature. On le voit, entre autres, avec les événements croissants, ces rêves matinaux où le café remplace l'alcool. Observer des oiseaux, au fond, c'est un peu ça, une quête de stimulation, version nature. Un passe-temps accessible. L'autre raison qui pourrait expliquer la popularité grandissante de l'ornithologie chez les jeunes, c'est son accessibilité. Contrairement à d'autres hobbies qui demandent un abonnement, de l'équipement coûteux ou des déplacements, l'observation d'oiseaux peut se pratiquer presque partout. Il y a moyen de faire ça dans n'importe quel quartier, explique Éloi. Même dans des endroits qu'on sous-estime complètement, devant chez soi, dans le stationnement d'un centre commercial ou près d'une station de métro, les oiseaux sont partout. Et dans un contexte où le coût de la vie explose, les jeunes cherchent des façons de se divertir sans vider leur compte bancaire. Parce que, quand on y pense, l'ornithologie reste un hobby relativement abordable. Une paire de jumelles de base, une application pour identifier les espèces et un peu de patience suffisent pour s'y mettre. Une autre façon de décrocher des écrans. Cet engouement pour l'ornithologie s'inscrit aussi dans ce virage analogue qu'on observe chez plusieurs jeunes depuis le début de 2026. Après avoir grandi avec les réseaux sociaux, le drone scrolling et les notifications constantes, plusieurs ressentent maintenant le besoin de ralentir. L'ornithologie force littéralement cette présence-là. Ça permet de décrocher, d'oublier le stress de la vie, me dit Éloi, parce que pour observer un oiseau, il faut être attentif, vraiment attentif. La vue, l'ouïe et même les mouvements deviennent importants. Parfois, je peux savoir qu'un oiseau est là juste par la façon dont une branche bouge, mais pour remarquer ça, il faut être présent à 100%. Dans une époque où notre attention est constamment fragmentée, il y a quelque chose de presque méditatif dans le fait de rester immobile un moment pour écouter les sons autour de soi. Le nouveau Pokémon Go. Vers la fin de notre discussion, Éloi fait un parallèle particulièrement intéressant. Ça me fait penser à l'engouement pour Pokémon Go pendant la pandémie. Tout le monde sortait, découvrait son quartier, marchait, prenait l'air. Sauf que, cette fois-ci, la quête se passe loin des écrans. Au fond, ce n'est peut-être pas si surprenant que ce passe-temps longtemps associé aux retraités gagne en popularité chez les jeunes. L'ornithologie répond à plusieurs besoins très contemporains. Ralentir, décrocher, trouver des loisirs abordables et de reconnecter avec la nature. Honnêtement, la passion avec laquelle Éloi me parle de l'ornithologie est carrément contagieuse. Même si vous n'avez jamais touché à une paire de jumelles de votre vie, ça vaut la peine d'essayer. Ne serait-ce qu'en observant les oiseaux dans votre cour ou dans le stationnement du centre d'achat le plus près. Comme dirait Éloi, c'est le fun. Ça te fait apprécier l'extérieur et devenir plus consciente de ce qui t'entoure. C'était « Pourquoi l'observation des oiseaux séduit autant la génération Z? » Un texte de Clara Beaulieu, paru le 15 mai 2026 dans le magazine Urbania.
Qu'est-ce que le sous-recyclage? Un texte de Jean-Thomas Léveillé paru le 3 juin 2026 dans la presse. Quand elles ne finissent pas dans un site d'enfouissement ou un incinérateur, les matières résiduelles récupérées par l'entreprise TerraCycle sont souvent sous-recyclées, ce qui lui vaut beaucoup de critiques. Mais qu'est-ce que le sous-recyclage exactement? Explication. Ce que dit le dictionnaire, tiré du grand dictionnaire terminologique. Fabrication à partir d'objets ou de matériaux de récupération, de produits de moindre valeur que les objets ou matériaux d'origine. Les termes sous-cyclage ou infra-recyclage sont aussi parfois utilisés. En anglais, on parle de « downcycling ». Ce que ça signifie concrètement. Transformer des bouteilles et sacs de plastique en palettes d'expédition, en bacs de rangement ou en arrosoirs de jardin est du sous-recyclage, puisque la matière transformée ne revient pas à son état d'origine. Transformer de vieux pneus en revêtements de surface de terrain de jeu est aussi du sous-recyclage. À la fin de leur vie utile, ces objets pourront tout au plus être sous-recyclés à nouveau ou iront dans un site d'enfouissement où seront incinérés. Ce qui est souvent sous-recyclé. Les plastiques. Ils sont généralement sous-recyclés car il y a énormément d'obstacles à leur reconstitution en leur état d'origine. La grande variété de types de plastiques, la combinaison de différents types de plastique dans un même produit, la difficulté de les séparer, les règles sanitaires, etc. Le papier. Après quelques cycles de recyclage, la fibre de papier devient trop courte pour conserver sa qualité. C'est pourquoi le papier est tôt ou tard sous-recyclé en des produits de moindre valeur comme du papier hygiénique, des boîtes d'œufs ou des emballages. Les vêtements. il est extrêmement difficile de recycler les vêtements en raison des mélanges de tissus, des boutons et autres accessoires ainsi que des coutures. C'est pourquoi les textiles sont généralement sous-recyclés en produits de rembourrage ou d'isolation. Ce qui peut être réellement recyclé. Le verre et l'aluminium sont recyclables à l'infini. Les bouteilles et autres contenants de verre peuvent être fondus afin de fabriquer de nouvelles bouteilles et de nouveaux contenants. L'utilisation de verre recyclé évite de recourir à des matières vierges et nécessite moins d'énergie pour sa transformation. De la même manière, l'aluminium peut aussi être fondu et refondu à l'infini. Ce qu'en pensent les experts. Marc Olivier, chimiste et enseignant à l'Université de Sherbrooke. C'est super loin d'être idéal. Il faut une homogénéité dans le plastique pour produire des granules qui pourraient resservir dans une opération de qualité. Avec des plastiques mélangés, j'ai une sous-performance de propriétés physico-chimiques. C'est sûr que je ne peux plus faire d'objets de qualité. Je ne peux pas faire des bancs de parc. Je n'aurai pas une bonne résistance. Ça va se défaire rapidement. Amélie Côté, experte en gestion des matières résiduelles et coordonnatrice du Réseau des entreprises d'économie sociale et circulaire du Québec. Le sous-recyclage, c'est la dernière stratégie qu'on devrait favoriser en économie circulaire avant l'élimination. Ce que je remets en question, c'est l'énergie et les ressources qui sont mises pour financer du sous-recyclage qui servent à maintenir un système de surconsommation et de surproduction plutôt que développer des solutions pour réduire le gaspillage, pour favoriser l'éco-conception des produits en amont pour qu'ils soient plus durables ou pas jetables. Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Le sous-recyclage n'a jamais démontré que tu réduis l'utilisation de plastique vierge. Au contraire, tu fais juste favoriser la mise en marché d'objets en plastique. C'est une invention pour dire que tu n'élimines pas, mais c'est juste que tu retardes l'élimination. C'était « Qu'est-ce que le sous-recyclage? » un texte de Jean-Thomas Léveillé paru le 3 juin 2026 dans la presse.